France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza.
Je suis Cecilia Bartoli. Je suis née à Rome le 4 juin 1966. Je suis musicien, cantatrice, passionnée par la musique.
On arrive, Cecilia Bartoli, donc à l'orée des années 90, qui sont le moment où votre carrière internationale prend vraiment une dimension autre. Avant d'aller vers quelques grandes figures, je voudrais qu'on en voit quelques-uns, Barenboim, Arnoncourt, Hogwood, qui ont été très importants à cette période. Je voulais qu'on parle d'un moment qu'on ne connaît pas toujours très bien en Europe, qui est une période américaine. Vous avez été à Houston, à Dallas, avant évidemment le Metropolitan Opera de New York. Et c'est le début, en fait, d'une véritable Bartolimania aux États-Unis, c'est-à-dire que vous devenez véritablement une star. Comment vous vivez ce passage-là?
Ce passage-là, c'était... Heureusement, j'étais jeune, mais j'étais pas trop jeune. Alors, là, j'avais déjà compris qu'il faisait travailler beaucoup. Chaque fois, c'était... Voilà, à développer un étage après l'autre, oui. Et l'Amérique, j'ai eu un agent américain qui a fait un travail magnifique. Son nom, c'était Mastroianni, Jack Mastroianni. C'est grâce à lui que je suis arrivée d'abord à faire de concerts récitals en Amérique, et puis opéra à Houston, à Dallas, et le Met, au Metropolitan, je chantais 3 productions. Et bizarrement, je portais le Cendrillon de Rossini au Met. Et je n'avais jamais fait la Cenerentola de Rossini au Met. Alors je trouvais ça assez exceptionnel. Et c'était le grand succès. Mais mes débuts au Met, c'était dans une opéra de Mozart. C'était dans Così fan tutte, avec James Levine qui dirigeait. À cette époque-là, le public du Met était un public très chaleureux, très... Et oui, en plus, quand je faisais des concerts, je me souviens que je signais... le concert, la durée d'une signature, c'était plus long que de la durée d'un concert. Alors j'ai réalisé ce que... La vie est dure, hein. Ça peut être vraiment dur. Mais en même temps, il y a une sorte de... Le fait que les gens viennent te voir, te remercier, c'est un moment aussi de bonheur, parce qu'on voit l'enthousiasme pour chacun. Même un mot, c'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est important s'il y a quelque chose à partager. Pas après tous les concerts, mais de temps en temps, oui. De regarder le public dans les yeux, oui.
Soldati, speranti, fedeltà, fedeltà.
Si vous voulez bien, Cecilia Bartoli, de quelques-unes des grandes figures que vous avez croisées. Il y en a une qu'on a déjà vu passer, c'est Daniel Barenboim. On peut s'arrêter un petit peu sur lui, parce que comme vous avez travaillé beaucoup avec lui, entre autres Mozart, que lui, il connaît sur le bout des doigts, évidemment, d'abord comme pianiste, en sonate, en concerto, avant d'avoir fait tellement d'opéras. Qu'est-ce qui vous a transmis de ça, de Mozart, peut-être de la manière de le chanter, du style, de l'esprit mozartien?
D'abord, je dois dire que c'est grâce à Barenboim que j'ai commencé à apprendre le rôle mozartien. Parce que vous savez, à Rome, même si je suis grandie à l'opéra avec mes parents, mais à l'époque, dans les années 80 ou même 70, la plupart des opéras, c'était du vérisme italien. Rarement du Rossini, surtout les opéras comiques. Et je me souviens de Les Noces du Figaro, c'est tout. Et là, grâce à Barenboim, c'était lui qui m'a dit vraiment, Cecilia, vous avez une voix, un instrument qui peut vraiment aller loin, enfin, et surtout, vous pouvez aborder le rôle mozartien. Et pas seulement le rôle mozartien, mais aussi les airs de concerto de Mozart. Heureusement que j'ai eu ce conseil, parce que c'est toujours, Rossini et Mozart sont toujours des compositeurs qui sont dans mon répertoire et que j'adore chanter. Et peut-être la longévité de ma carrière, c'est grâce au fait que je continuais à chanter et je l'ai encore dans le répertoire.
Mmh. Oui. Que vous ayez les deux piliers, en fait, c'est ça? Parce que c'est deux vocalités très différentes, en fait.
Oui, c'est différente, mais en même temps, Rossini était un génie comme compositeur, mais aussi un grand professeur du chant. Parce que la vocalité rossinienne, si, comme l'écriture rossinienne, c'est une écriture assez large. Et alors, la voix a toujours besoin de descendre vers un registre grave, mais aussi de monter dans un registre aigu. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir toujours trois octaves, toujours jouer dans les trois octaves, et d'avoir une voix toujours flexible pour arriver à chanter tous les virtuosismes rossiniens. Et alors, dans l'autre côté, Mozart, on a les grandes lignes à soutenir, et les phrases dans la longueur. Alors ça, c'est le fait contraire. Voilà, la grande phrase. Et surtout dans Mozart, la ligne est très pure, l'écriture vocale. Alors, il faut être toujours très attentif à tout, à l'intonation, à la couleur. Enfin, Mozart, c'est encore plus difficile, je crois, de chanter Mozart. Et je me souviens, il y a un moment aussi très fort, c'était pendant l'enregistrement de Noces de Figaro, je crois, au Così fan tutte. Enfin bref, on était à Berlin, et c'était le moment où le mur tombait, et là, personne ne savait ce que pouvait arriver. C'était... Et nous, on était là. C'est un moment historique. Alors justement, on avait terminé l'enregistrement, on était en train de rentrer à l'hôtel, et les gens à l'hôtel nous avaient dit « Sortez pas, surtout pas, on ne sait pas ce qui est en train d'arriver, restez là ». On a presque eu peur, parce qu'on ne savait pas finalement ce que ça pouvait arriver. Et petit à petit, on a vu les gens qui venaient vers le côté ouest de Berlin, et qui commençaient à regarder la rue, à demander des informations, et même les taxis, on a vu de voitures, les Trabats, s'appelaient vous savez, les voitures qu'ils avaient à l'époque, et de chauffeurs de taxi qui demandaient des rues à nous. Enfin, nous, on a dit, non, on peut pas vous aider parce qu'on n'est pas d'ici, mais c'était un moment très fort, comme ils regardaient un petit peu comme si venaient d'une autre planète. C'était très touchant de ça.
C'est juste la même ville, mais de l'autre côté du mur.
Du mur, oui. Et même des familles qui se sont réunifiées après ça. C'est... On a vécu ça, c'est un moment historique.
Les grands entretiens de Cécilia Bartoli, France Musique.
Nicolas Arnoncourt, que vous rencontrez aussi dans cette période-là, au début des années 90, pas autour de Mozart, mais plutôt autour de Haydn. On sait que c'est évidemment une sorte de pape de la musique ancienne. Est-ce que vous aviez eu, vous déjà, Cecilia Bartoli, un lien justement avec le baroque, avec le mouvement baroque et avec ce qu'il avait apporté?
Alors non, le lien, c'est vrai que Arnoncourt m'a ouvert l'univers des instruments d'époque, parce que moi, je connaissais pas. Enfin, j'avais jamais joué avec un orchestre. Enfin, ça, à Rome, ça m'a jamais arrivé d'écouter aussi des instruments, enfin, des orchestres qui jouaient avec des instruments d'époque. Et grâce à lui, j'ai découvert un univers sonore très intéressant et très, stupéfiant. Enfin, d'écouter pas seulement le Haydn, mais même le Mozart joué par des instruments d'époque. C'est une révélation.
Il vous a fait travailler comment, Arnoncourt? On sait comment ils faisaient travailler les instrumentistes, mais les chanteurs, ils faisaient comment?
Le chanteur, mais lui, il était d'abord, c'est une personne très cultivée et qu'il arrivait toujours, il avait des idées très spéciales, mais c'était quelqu'un tellement charismatique qui arrivait toujours à convaincre. Même si on était d'abord un peu, comment dire, choqué par...
Ou hésitant
par la façon d'interpréter ou des tempi, par exemple. Quelquefois, il prenait, lui, des tempi assez spécial. Mais il avait toujours des raisons pour ça, historiques et même musicalement. Comme je disais avant, le charisme faisait qu'on était transporté par sa façon de faire de la musique, oui. Et de nous transmettre ça, justement. Avec les yeux comme ça, toujours très... Bon.
Je vais vous dire, vous n'avez pas peur avec ces grands yeux clairs.
Et surtout parce que les yeux, quelquefois, il avait, je ne sais pas comment il faisait, mais il n'arrivait pas à avoir les yeux juste, il arrivait à...
Diverger.
À diverger. Bon, c'est... à diverger au point qu'il donnait la levée, il donnait la levée, mais quelquefois à regarder, mais la levée, par exemple, si c'était ou pour moi ou pour un autre chanteur, mais le fait que les yeux étaient tellement loin... Quand on se posait la question, mais c'est... Mais c'était sympathique, ouais. Finalement. Oui, de voir à quel point aussi il était engagé, lui. Hein. 100%.
Oui, il y croyait vraiment. Hein.
Ah, mamma mia. Ouais. Ah si.
Trop même.
Non, mais beaucoup. Il le croyait. Mais il faut ça. Moi, je dis, il faut se plonger... Anima et corpo, on dit en italien, dans la musique. Et lui, il le faisait, absolument.
Thank you. autre, entre guillemets, baroque avec lequel vous travaillez à ce moment-là, c'est Christopher Hogwood, qui a des manières totalement différentes d'Arnoncourt. C'est pas la même manière d'appréhender la musique, le rapport aux instruments anciens. Non. Et donc, j'imagine, à la voix aussi.
Non, non, non. Et c'était pas le même tempérament. Ouais. Alors, c'était très, enfin, Hogwood. J'ai trouvé aussi le travail avec Hogwood très intéressant, parce que un musicien très raffiné, très cultivé, raffiné, je veux dire. Oui, chaque fois, il cherchait toujours une sorte de pureté dans sa façon de faire la musique. Et la voix, vraiment, il cherchait dans la voix, chaque fois, des couleurs très instrumentales. Et ça, ça m'a aidé aussi pour comprendre que dans des airs, surtout, il y a beaucoup de airs baroques où la voix doit dialoguer avec la flûte ou la trompette ou le hautbois. Et là, lui, il était toujours très sensible à ça.
Ici, dont on parle, Gigi Bartoli, vous avez 25 ans, 30 ans, c'est le moment où vous prenez des prises de rôle. Il y en a combien? Oui. Deux fois par an, c'est ça? Trois fois par an?
Ah si, au moins.
C'est ça, au moins. Si, hein. Si. Vous rencontrez plein de monde, évidemment, ceux qu'on vient de nommer, d'autres musiciens encore, et vous entrez dans une carrière qui est donc très rapidement quand même une carrière internationale très, très exposée. Comment vous vivez humainement tout ça, cette période-là? Vous le vivez très bien, ce changement de dimension?
Enfin, très bien. C'est clair que là, il faut... Il y a toujours dans une carrière, dans la vie, enfin, de nous, musiciens, on a le privilège de faire la musique, mais en même temps, on est toujours en voyage. Alors, c'est clair qu'on est loin de la famille. Alors, il y a deux prix à payer, ça, c'est clair. Mais je pense dans toutes les professions. Mais au moins, on a la chance de, c'est notre profession, c'est notre passion. Alors, moi, j'ai des amis qui n'ont pas vraiment la même chance. Alors, je peux pas me plaindre. Mais c'est pas une vie pour tout le monde, c'est vrai. Parce que c'est pas seulement une question. La difficulté, c'est la pression, c'est le. Il faut avoir aussi un caractère, je pense, le nerf pour affronter en public. Ça, c'est pas évident, ça, c'est vrai.
Et vous, pour vous, ça a l'air facile quand vous êtes face au
public? Non, c'est jamais facile. Non, non, c'est jamais facile. Je connais pas des musiciens qui vont sur scène facilement. Enfin, s'ils font ça, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que si on fait ça avec amour, avec amour pour notre métier, mais surtout la responsabilité d'aller sur scène pour chanter la musique de Mozart. Mon Dieu, à servir la musique de Mozart. Alors on peut pas y aller en facilité, ça. Mais s'ils font ça, et così.
Tant pis pour eux.
oui, justement.
Thank you. Thank you.
Un final tel que Rossini les aime ici dans le Barbier de Séville sous la direction du Giuseppe Pattani avec bien sûr la voix de Cecilia Bartoli. Suite des grands entretiens avec la fabuleuse mezzo demain jeudi sous le titre La Révolution Vivaldi. Merci à Flora Sternadel, Perrine Mingui, Yves Lehors et Frédéric Changenet. Très bonne journée à tous et rendez-vous sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.